Et vous voulez comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps.
Donnez-moi la force de comprendre, car ces visions m'assemblent.
Avec Martin Carly, Martin, on parle d'une nouvelle classe d'analgésiques qui sont moins risqués.
Oui, absolument. Et là, ça, c'est une excellente nouvelle avec tout ce qu'on entend, tout ce dont on parle lorsqu'on parle du fentanyl notamment et toutes les overdoses d'opioïdes. Et avant de vous présenter ce qu'on propose de nouveau, quand même revenir un petit peu sur les dangers. Pourquoi est-ce qu'on peut mourir d'un opioïde? Les opioïdes, c'est un peu des molécules qui engendrent une genre de relation amour-haine au niveau médical parce que, oui, ce sont des molécules qui permettent de soulager la douleur et sans lesquelles, il y a des choses qu'on pourrait tout simplement pas faire. On peut pas imaginer, par exemple, une opération majeure. Tu sors de là et t'as pas d'antidouleur. On s'entend, là. Parce que la réaction au stress engendré par la douleur peut causer d'importants problèmes. On peut carrément avoir des problèmes de mortalité si on ne supporte pas la douleur et on est trop stressé. Notre corps devient trop stressé par rapport à ça. On a commencé aux grands brûlés, par exemple, qui peuvent décéder même si leurs organes vitaux ne sont pas touchés. Le stress au niveau douloureux est tellement intense qu'on peut les perdre carrément comme ça. Donc, il faut soulager cette douleur-là. Ça, on n'a pas vraiment le choix, de un. Le problème, c'est que ces molécules-là vont agir sur des récepteurs neuronaux, donc pour soulager cette douleur-là, mais aussi sur des récepteurs de neurones qu'on retrouve dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est la partie du système nerveux qui fait le lien entre le cerveau, qui est carrément dans notre crâne, et la moelle épinière, là, qui commence au niveau du cou, à peu près, là. Donc, il y a une section de matière, là, donc de neurones, ainsi de suite, là, qui fait le lien entre les deux, c'est la partie qui est au niveau de la gorge, à peu près, là. Donc, ça, c'est le tronc cérébral. Pourquoi cette partie-là est problématique? C'est parce que c'est dans cette région-là du système nerveux qu'on contrôle les systèmes automatiques comme la respiration, par exemple. Alors, ces opioïdes-là vont aller jouer sur des récepteurs neuronaux au niveau du tronc cérébral et entraîner une dépression respiratoire. Et c'est ça le problème qui entraîne des décès. Okay. Donc, notre respiration devient de moins en moins efficace, diminue comme ça, de façon graduelle, et à un moment donné, tu respires carrément plus. Si tu respires plus, le reste du corps suivra pas, tes cellules n'auront pas d'oxygène et c'est terminé. Donc, c'est ça le problème qu'on cherche à éliminer. C'est ça le gros problème d'overdose. Juste l'année passée, on a des chiffres pour les États-Unis, on parle de 64 000 décès liés à l'utilisation d'opioïdes, là. Donc, des problèmes respiratoires liés à ces molécules-là. Ça a causé la mort de 64 000 personnes, d'où mon préambule où on parlait de relations amoureuses avec ce type de molécule-là. Alors, on arrive maintenant à une nouvelle classe d'analgésiques où on cherche essentiellement à maintenir cet effet thérapeutique-là, donc l'effet analgésique de ces molécules-là, mais on essaie d'éliminer l'effet de dépression respiratoire. C'est ça qu'on cherche à faire. L'objectif, il est là depuis le début. Eh bien, un nouvel opioïde est sur le point d'être approuvé par la FDA américaine, donc le Food and Drug Administration américaine. C'est ce qu'on appelle l'oliséridine. Donc, c'est un nouveau type d'antidouleur qui serait administré par intraveineuse à l'hôpital. Donc, c'est pas une pilule, c'est pas quelque chose qu'on aura sur la rue, bien entendu. Mais c'est le premier d'une nouvelle classe d'opioïdes qui permettrait de favoriser la cascade d'événements qui mène à un soulagement de la douleur et non pas la cascade d'événements qui mène à une dépression respiratoire. C'est le premier.
Mais est-ce qu'on travaille aussi sur qu'est-ce qui rend ça addictif à ce point-là? Parce que tu sais, ça, c'est l'autre point.
Ouais, c'est ça.
Ben, les gens créent une dépendance.
Ouais, on peut tout de suite passer à ça parce que c'était comme ma question finale, si on veut, qui vient à cette étude-là. On n'est pas encore capable d'éliminer cet élément-là. C'est ça. Donc, même avec cette nouvelle classe d'opioïdes-là, c'est sûr que c'est un gros problème. Et ce problème-là est exacerbé par le fait que l'effet secondaire principal de ce type de médicament-là, c'est la dépression respiratoire. Donc, c'est le décès. Et ça, on le voit aux nouvelles avec le fentanyl.
Ben oui.
On a d'énormes problèmes. C'est sûr que dans le cas de la crise actuelle du fentanyl, il y a aussi le fait que des fois, c'est peut-être même pas du fentanyl, puis ça a été coupé avec d'autres molécules qui sont plus dangereuses que l'opioïde lui-même. Ça, c'est autre chose. Mais lorsqu'on administre ça dans un contexte médical, ben déjà là, on a un médicament contrôlé ici, puis il n'est pas toujours facile à contrôler. Donc, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on a une nouvelle classe qui vont stimuler les récepteurs, mais pour stimuler ces récepteurs-là de manière à aller vers uniquement un effet analgésique et pas aller vers la cascade d'événements qui mène à la dépression respiratoire.
Au moins ça, là, toujours.
Au moins ça. Donc, en théorie, on ne pourrait pas mourir d'une overdose de ce médicament-là, en théorie, bien entendu. Là, c'est sur le point d'être admis chez les humains aux États-Unis. Donc, on est sur le point vraiment de pouvoir avoir des informations là-dessus. Et ce qui est le fun aussi, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle classe-là, ça vient pas juste de cette molécule-là. Il y a d'autres compagnies qui sont en train de développer d'autres médicaments dans cette classe-là d'opioïdes. Donc, on pourrait enfin voir arriver un nouvel arsenal d'opioïdes qui soulagerait encore la douleur, mais qui ne mènerait pas à des problèmes respiratoires. C'est une excellente nouvelle.
Au programme dans les prochaines minutes, banane et Amish. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? On vous le dira dans quelques minutes.
Oui, moi je le sais, mais je vous le dis pas.
Suite avec Martin Carly, je disais juste avant la pause... Le lien entre les bananes et les Amish.
Il n'y en a pas.
Ce sont les deux prochains sujets que l'on va traiter. Voilà. Les bananes OGM.
Oui, absolument. On est en train de faire en Australie un test sur des bananes OGM, donc des bananes qui ont été modifiées génétiquement. Pourquoi? Pour réussir à résister aux champignons qui causent la maladie, une catastrophe à l'échelle planétaire. Maladie qui n'a pas encore touché les bananes Cavendish. On parle vraiment là, d'une variété précise. Les
qui
bananes qu'on mange.
Consomme,
là, exactement. Donc, les bananes qu'on a à la maison, les fameuses bananes jaunes et tout ça, ce sont des bananes de variété Cavendish. Ce sont celles qu'on mange. Et ce sont celles qui ont été affectées depuis déjà plusieurs années par une maladie qu'on appelle la maladie de Panama qui est causée par un champignon.
Ah ouais, on se demande même si elle allait pas avoir une extinction complète de la...
Exactement. Mais c'est une maladie qui n'a
pas... variété.
Exact. Mais heureusement, ce qui nous permet un peu d'envisager qu'on va manger des bananes demain matin, c'est que les Amériques n'ont pas encore été touchés par ça. Mais à l'heure de la mondialisation, c'est difficile d'imaginer que le champignon n'atteindra jamais les Amériques. Ouais. Donc, c'est le fun de voir quand même certaines interventions pour essayer de protéger ce fruit-là. Alors, il faut savoir que c'est un champignon donc qui cause la maladie, un champignon qu'on appelle le Fusarium TR4. Et le fait de désinfecter les bottes des fermiers, de désinfecter les différents outils avec lesquels on manipule les bananes, ça a un certain effet, mais pas assez. Donc, c'est pas assez pour empêcher la propagation de la maladie. Et donc, justement, pour le moment, il y a juste les Amériques qui ont été épargnés. Alors, des chercheurs en Australie ont identifié un gène de résistance dans une autre espèce, dans une autre variété de bananes, et ils ont modifié génétiquement la Cavendish pour intégrer ce gène-là au bagage génétique de cette banane-là. Ils ont par la suite planté ces bananes modifiées génétiquement en Australie, là où le TR4 a sévi, donc là où il y a eu des grosses pertes au niveau des récoltes. Ils ont même enterré du matériel infecté par ce champignon-là tout près des plants pour être vraiment sûr que ces bananes-là soient exposés à la maladie. Eh bien, résultat, de 67 à 100% des contrôles, donc n'ont pas été modifiés génétiquement, sont mortes, donc ont été lourdement endommagées suite à cette maladie-là. Mais au niveau des OGM, c'est 80% des plants qui sont en santé, qui n'ont aucun symptôme. Donc, la technique fonctionne. Là, il y a un mais. Le mais, c'est quoi?
Là, les OGM,
c'est que c'est un OGM.
C'est pas...
Puis, je vais rappeler que lorsqu'on mange quelque chose, c'est les gènes de ce qu'on mange ne s'intègrent pas à notre ADN à nous. Malgré tout, il y a ce genre de crainte-là qui subsiste dans la population en général. Et donc, le problème qu'on se dit, c'est est-ce que le marché sera réceptif à cette banane OGM? Donc, il faudra voir, il va se placer où l'équilibre?
Ça va un peu à l'encontre de ce que l'on voit partout. Là. On étiquette sans OGM, on sort les produits OGM le plus possible.
Exactement. Puis je te disais, hors d'onde, Mathieu, que des fruits et des légumes qui ont été modifiés, pas en laboratoire, mais qui ont été modifiés suite à des croisements répétitifs par les humains, au point où on voit des choses absurdes comme des agrumes qui n'ont pas de pépins juste parce que les pépins, ça nous gosse, hein, on s'entend. Mais dans la nature, un fruit, pas de pépins, ça va à l'encontre même du mode de reproduction de la plante. Bien, ça aussi, ça existe. Là. On a créé ces plantes-là de toutes pièces qui ne devraient pas exister dans la nature. Donc, tu sais, les OGM...
Melon a beaucoup moins de pépins qu'il y en a déjà eu, le melon d'eau, hein, t'as remarqué?
Qu'est-ce que t'en penses?
En terminant, les Amish, la coagulation sanguine et la durée de vie.
Oui, exactement. Quelque chose de très rapide. On parle ici des Amish. Pourquoi les Amish? Parce qu'on a une population qui est plutôt fermée, là, qui reste ensemble. Donc, on est capable d'étudier certains gènes dans des populations plus fermées comme celle des Amish. Et là, on s'est rendu compte qu'un certain gène qui empêchait plusieurs membres de la communauté, qui descendaient tous, là, donc ceux qui font partie de l'étude, ils descendaient en grosse partie d'un même couple venant qui avait immigré de la Suisse. Suisse, eh bien, ils avaient des problèmes de coagulation sanguine. Mais ce gène-là, qui jouait un rôle dans la coagulation sanguine, ben, on s'est rendu compte qu'il jouait peut-être un rôle dans d'autres affaires, dont le vieillissement prématuré des cellules, et dont certaines maladies comme le diabète ou ainsi de suite. Donc, on s'est rendu compte essentiellement que... lorsqu'on a une seule copie du gène mutant, mais on pourrait vivre plus longtemps, nos chromosomes seraient plus longs, donc survivre plus longtemps à des divisions cellulaires.
Okay.
Et donc, on a ici une cible potentielle de traitement pour certaines maladies comme le diabète, l'obésité et peut-être même la durée de vie.